Bonjour à tous. J'ai pas l'habitude de parler dans un micro du tout, donc si je suis pas audible, on va pas hésiter à me le dire tout de suite. Alors à la question « Comment Césamat est-elle devenue une association porteuse de tant de projets ?», la réponse est complexe et reste sans doute encore à écrire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de nombreux facteurs qui ont contribué au développement de Césamat. On peut citer Internet, les ordinateurs qui envahissent la vie quotidienne, les nouvelles méthodes et les nouveaux outils d'enseignement. Il y a aussi les facteurs contingents. Au départ, Césamat, c'est la rencontre de quelques individus illuminés et très motivés. Le facteur a été essentiel. Mais il y a également des facteurs plus cachés et aussi importants. Ce sont des facteurs dont l'importance croît avec le temps et qui n'étaient donc pas visibles il y a quelques années. Parmi ces facteurs, le travail collaboratif a joué et jouera encore plus à l'avenir un rôle majeur. À ce stade, il faut bien préciser ce que l'on entend par travail collaboratif et en particulier bien distinguer le travail collaboratif de la mutualisation et du travail coopératif. La mutualisation, ça consiste à déposer au sein d'un espace dédié des ressources qui deviennent alors disponibles pour tous. La coopération, c'est le partage des tâches. Si un projet nécessite l'exécution de nombreuses tâches distinctes, alors un travail coopératif peut être mis en œuvre, chaque membre du projet développant un élément du projet. C'est le principe de la division du travail. Par contre, quand on parle de travail collaboratif, quand plusieurs individus d'un projet travaillent tous ensemble sur un élément du projet. Dans l'idéal, ils travaillent tous ensemble sur tous les éléments du projet. Ça, c'est l'idéal. Dans la pratique, souvent, au sein d'un projet, on peut avoir à la fois de la mutualisation, du travail coopératif et du travail collaboratif. Le travail collaboratif est de loin le plus difficile à mettre en œuvre, mais c'est aussi, surtout quand il s'agit de ressources pédagogiques, celui qui est le plus riche et le plus prometteur, car il favorise la réflexion et les échanges. Les questions comme « Comment le travail collaboratif est-il apparu au sein de Césamat ? Comment se met-il en œuvre ? Comment s'est-il développé ? Quels sont les enjeux du travail collaboratif ? Qu'est-ce qu'il permet et qu'est-ce qu'il ne permet pas ? Toutes ces questions sont importantes et sont bien souvent très complexes. Nous ne pourrons bien évidemment pas répondre à toutes ces questions ici, d'abord parce que ce serait trop long et surtout parce qu'elles constituent pour nous des questions ouvertes dont on n'a la plupart du temps que quelques éléments de réponse. Mais nous pouvons malgré tout montrer sur des exemples comment le travail collaboratif est apparu, comment il a grandi et identifie au passage différentes formes du travail collaboratif. Nous montrerons également en quoi la mise en forme d'un travail collaboratif global est essentielle pour l'avenir de Césamat. Voici donc le plan de cet exposé. Après une brève historique de Césamat, nous prendrons les exemples de maths en poche et des manuels et nous tâcherons de voir en quoi un travail collaboratif s'est développé au sein de ces projets. Des projets récents voient se développer en leur sein un travail collaboratif plus ambitieux, car plus large. Nous les mentionnerons dans le point 4 de la première partie. Ces projets récents et les structures nouvelles comme Césaprof qui sont créées constituent une étape intermédiaire vers un Césamat nouveau, un Césamat tourné vers les usages et vers les utilisateurs, le Césamat 2.0. Le Césamat des projets ne permet pas à lui seul ce passage, car il comporte ses limites. Bien sûr, il reste nécessaire et indispensable, puisque c'est un moteur, mais il ne suffit pas. Nous évoquerons ce dernier point dans la seconde partie. Commençons donc par une brève historique de Césamat. Je laisse la parole à Benjamin. Moi, ensuite, je traiterai les points 2, 3, 4 de la partie 1, et Benjamin terminera avec la partie 2.
Bien, pour commencer, quelques chiffres qui positionne un petit peu l'aura, si je puis dire, de l'association Césamat. Donc, sur l'ensemble des sites, 1 million de visites. On a même dépassé un petit peu ce chiffre récemment. 15 000 professeurs inscrits à la lettre de diffusion, donc des professeurs avec qui on est en contact semaine après semaine. 4000 professeurs inscrits à CESAPROF. Donc CESAPROF, c'est un des projets de CESAMAT qui est très récent. Il a été lancé en juin dernier et on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais on voit que bien que lancé très récemment, en plus avec les vacances d'été, 4000 enseignants qui se retrouvent sur cette plateforme. Et un autre chiffre d'importance, c'est le nombre d'élèves sur Math en Poche Réseau. 500 000 élèves qui sont donc inscrits par leurs enseignants sur Math en Poche Réseau. Alors, on peut voir CESAMAT comme au travers de son portail, du site de CESAMAT. On voit ici le CESAMAT 1.0 avec le CESAMAT des projets. On en a une liste exhaustive ici, avec donc entrée sur chacun des sites des projets. Mais on peut le voir aussi sous une autre forme. Alors vous voyez, découpé en quatre rubriques, communication, édition, logiciel et doc. Doc, c'est pour document papier. Alors à la naissance de l'association, il y avait regroupement de sites personnels qui ont conduit à mutualisation autour du projet Matadoc. Et cette mutualisation, elle s'est faite au sein d'un premier travail collaboratif. Et existait aussi des listes de discussion qui permettaient les échanges et créer un début de communauté autour de CESAMAT. Au sein de Matadoc, très rapidement, les premiers documents animés apparaissent. Donc il y avait des diaporamas, il y avait aussi des animations flash, de la géométrie dynamique, des pages HTML dynamiques avec des formulaires, du JavaScript. Et tout ça, ça a donné naissance à un nouveau projet, tableau virtuel, qui était du même ordre que Matadoc, mais à destination de ces ressources-là. Alors vient ensuite la mise en place de la lettre de diffusion. Alors on a mis un S à lettre parce que cette lettre, elle s'est multipliée par la suite. Au départ, cette lettre, elle était à destination presque unique des enseignants. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a pensé. Et donc, on demandait aux enseignants de s'abonner à cette lettre de diffusion. On s'est aperçu assez vite que des élèves aussi s'inscrivaient. Et puis qu'il n'y avait pas que des enseignants de mathématiques, il y avait des documentalistes, il y avait des enseignants de lycées professionnels qui ne faisaient pas forcément de mathématiques, qui s'inscrivaient à cette lettre de diffusion. Et donc elle est déclinée en plusieurs versions maintenant. Un premier projet, alors pas premier puisqu'il y avait tableau virtuel avant, mais IBEPS, où là il y a un projet collaboratif où le contenu aussi est collaboratif. Donc ça a été le premier qui a été lancé. Il a ensuite été mis en sommeil avant d'être réactivé très fortement il y a quelques années et maintenant remplir tout son rôle. Un projet issu de Matadoc qui est le premier projet d'édition de CESAMAT. Alors c'est issu de Matadoc parce que ces ressources numériques étaient disponibles au sein de Matadoc, mais en fait elles sont l'œuvre d'un seul auteur qui donc ensuite a fait l'effort de couvrir la totalité du programme de collège avec les livrets maths en ligne qui ont rencontré un succès certain au niveau éditorial. Et qui ont donc donné les premières finances à l'association CESAMAT. Le gros projet Math en Poche arrive maintenant. Alors, tout de suite, on vous propose Math en Poche et MapRéseau parce que dès le départ, on a pensé à l'interface pour le professeur qui devait piloter un petit peu la mise en place de cet exerciciel en classe. Alors ensuite on voit... Si, vas-y, c'est bon, JP. Un autre aspect de ces AMAT, il y a eu une époque où ces AMAT s'est un petit peu dirigé vers un anneau de sites où des projets externes à ces AMAT rentraient dans ces AMAT parce qu'ils nous paraissaient intéressants et ils utilisaient la vitrine de ces AMAT et ces AMAT aussi utilisaient, c'est pas un joli mot, étaient très contents d'accueillir ces projets. Alors, les mathématiques.net, ils couvrent les quatre champs parce que dès le départ, il y avait des forums sur le site lesmathématiques.net. Le côté logiciel, une base d'exercice, un serveur d'exercice en ligne. La doc, sur lesmathématiques.net, on trouve beaucoup de documents, donc c'est à destination du supérieur. Et un volet édition qui est en cours de réalisation. Un autre site qui est venu rejoindre ces AMAT, c'est Ami Collège. Donc là, c'est le site d'un membre de ces AMAT maintenant, qui couvrait l'ensemble de la sixième, je crois, lorsqu'il est rentré dans ces AMAT et qui proposait un enseignement où tous les documents étaient mis en ligne sur ce site. Deux projets qui naissent au sein de Maths en Poche, c'est TEP pour Traces en Poche et IEP pour Instruments Poche. Donc ces projets, en fait, pour Instruments Poche en tout cas, ils ont été sortis de Maths en Poche. Donc Instruments Poche, c'est les outils virtuels de géométrie. Et c'est à l'initiative d'un des développeurs de Maths en Poche qui a eu cette idée d'en faire un logiciel externe. Quant à Traces en Poche, on avait le souci de mettre de la géométrie dynamique dans l'exerciceur Maths en Poche. Et d'en faire des exercices à part entière, c'est-à-dire on demande une construction à l'élève et le logiciel est capable d'évaluer cette construction. Donc au départ, Traces en Poche, c'est de la géométrie dynamique pour Maths en Poche. Un autre projet qui rejoint la sphère CESAMAT, c'est DMAT. Alors DMAT, c'est une barre d'outils pour écrire des mathématiques sous OpenOffice. Ce projet-là, on verra qu'il a toute son importance avec d'autres projets qui vont venir par la suite. Alors, arrivée également de CMAT, une seconde barre d'outils. On a essayé de faire travailler ensemble DMAT et CMAT. On y est arrivé en partie, hein, ils ont pas mal échangé. Pas mal de choses se sont faites. Les deux barres d'outils ont profité l'une de l'autre, mais on n'est pas allé aussi loin qu'on voulait avec ces deux outils-là, qui sont toujours dans ces AMAT, mais on les sent moins présents quand même depuis quelques temps. Alors, premier projet d'édition créé collaborativement au sein de l'association, c'est les cahiers Maths en Poche. Donc là, l'idée est de prendre la suite des livrets maths en ligne qui tombaient en désuétude à cause du changement de programme. Et donc l'idée était de remplacer ces livrets maths en ligne année par année avec pour accompagner le changement de programme en collège. Et donc a été lancé un appel via la lettre de ces AMAT. Alors cet appel a été lancé après que déjà au sein de ces AMAT, une petite équipe soit formée pour ayant la volonté de mener à bien ce projet. Et donc là, on a retrouvé des dizaines d'enseignants qui nous ont rejoints pour construire ces cahiers d'exercice. Un autre outil, je l'ai mis dans Maths en Poche, mais il a été créé extérieur à Maths en Poche. Là, l'idée, c'était de le créer à l'extérieur pour le remettre dedans ensuite. C'est Cases en Poche, donc un tableur en flash qui pouvait donc fonctionner avec Maths en Poche. Pour l'instant, Case en poche est à l'arrêt, mais enfin, on ne sait pas, il va peut-être continuer. Il n'est pas rentré dans Mat en poche. Les manuels, donc ça c'est la suite pas logique des cahiers d'exercice. Un pari un peu fou quand même, créer des manuels scolaires, mais un pari réussi. Pourquoi case en poche, trace en poche et instrument en poche se retrouvent dans la case manuelle? Ben parce que ces manuels, on les a fait surtout pour mettre en scène l'utilisation des TIS dans l'enseignement. Et donc, ben lorsque on utilise de la géométrie dynamique, ben nous, on a mis du trace en poche. Ça peut se faire avec n'importe quel logiciel, mais puisqu'on en avait un, autant mettre celui-là. Instrument poche aussi est utilisé dans le manuel, et case en poche aussi. Un autre projet, CESABAC, qui est le pendant d'IBEPS pour le baccalauréat. IBEPS, c'était pour le brevet des collèges. La mise en place de forums de discussion liés à CESAMAT et à ces projets. Un projet complètement novateur par rapport à ce qu'on faisait avant, Mathématis, qui est l'idée d'une revue en ligne qui présenterait les usages des TIS, revue en ligne qui fait appel aux enseignants de terrain, mais pas seulement, aussi à des chercheurs, à des auteurs de logiciels. Une revue qui a été lancée il y a 2 ans, je crois, c'est ça, Gérard ? Voilà, qui a été lancé il y a 2 ans, qui a été lancé en y mettant beaucoup de force, beaucoup de temps, mais on a rapidement trouvé des auteurs de qualité, et je crois que la revue doit bien marcher, puisque on doit être à plus de 18 000 visites par mois, et l'article le plus lu doit avoir dépassé les 15 000 lectures. Ce qui est quand même un chiffre relativement important. Et donc on met en vitrine évidemment ce qui se fait dans ces AMAT, mais pas seulement, hein, on est très content d'accueillir tout ce qui se fait ailleurs dans le domaine des TIS et des mathématiques. Calculatis, qui est un projet mené conjointement avec l'inspection académique du Nord, c'est un rallye de calcul mental. Donc qui fonctionne avec des forces de CESAMAT aussi, puisque les développeurs des exercices sont des membres de CESAMAT. Blog, pourquoi t'as mis un S, JP, à blog? On en a d'autres. Alors pour l'instant, on a un blog. JP a peut-être idée d'en faire d'autres, je ne sais pas. Mais donc le blog de CESAMAT, au départ c'était le blog de Sébastien, c'est devenu le blog de CESAMAT, où il y a maintenant une bonne activité, et je crois qu'on en est à un billet tous les 2 jours, c'est ça? Et qui implique une petite équipe de rédaction autour de ces billets, une audience... petite audience pour l'instant, mais ça va aller en croissant, je pense, parce que enfin, moi je le trouve de grande qualité, ce blog, et donc
ça dépend des sujets,
dit Gérard. ça devrait être un vecteur intéressant pour la suite. Et il nous reste le petit dernier, Cap Brevet, qui est donc un site qui est mené conjointement par les Clionautes, donc des professeurs d'histoire-géographie, dont la présidente est ici parmi nous. Weblettre, qui est un site de professeurs de français, on dit ça ou... Oui, français, on a le droit de le dire, d'accord. Professeurs de français. Ah, d'accord. Dont la présidente Caroline Databekian est parmi nous, et donc de maths. Donc on y retrouve tout ce qui concerne le brevet, et c'est à destination principalement de nos élèves, mais les profs y trouveront leur compte aussi certainement. Donc c'est tout nouveau, hein, on a lancé ça il y a 15 jours. Et on espère que ce premier projet en commun ira loin, et puis que surtout ça ne sera pas le dernier. Et CESAPROF ? Ah, j'ai pas dit CESAPROF ? Et donc j'ai sauté CESAPROF. Donc CESAPROF, l'idée est de se diriger vers le CESAMAT 2.0. Donc sur CESAPROF, on doit s'identifier pour accéder aux ressources. On y met donc là des ressources qu'on ne veut pas montrer aux élèves et aux autres profs. Alors pourquoi aux élèves ? Ben, parce qu'il y a des corrections, il y a des choses comme ça. Et pourquoi aux autres profs ? Ben, parce qu'il y a dans CESAPROF des ressources en chantier. Qui sont en test, qui sont pas aboutis, donc qui se trouvent là pour justement être testés par les gens qui veulent bien participer aux différents groupes de travail qui se mettent en place sur CESAPROF. Donc on est très très content quand même de ce qui se passe, parce que 4000 enseignants, c'est beaucoup. Maintenant il reste à franchir le pas suivant, c'est 4000 enseignants qui utilisent CESAPROF, pas juste qui sont venus s'inscrire une fois. Donc ça, je pense que ça va mettre du temps à se mettre en place, mais on va y arriver parce qu'on pense que c'est le bon outil pour travailler ensemble et susciter le travail collaboratif autour de projets de CESAMAT, mais pas que, parce que on n'a pas non plus la force de s'occuper de tout, hein. Et de tout faire, et puis on n'a pas non plus le monopole des bonnes idées, ça peut exister ailleurs. Je crois que c'est à toi, JPL, non ?
Oui. Oui. Donc, alors, parmi tous ces projets, on a choisi deux projets phares, puisqu'il s'agit de réfléchir avec l'axe travail collaboratif. Donc, on va d'abord considérer l'exemple du projet Math en poche, et ensuite regarder le projet manuel, hein, en les analysant avec le prix du travail collaboratif. Puis ensuite, on va regarder en quoi les nouveaux projets, ceux qui arrivent, avec les structures qui les accompagnent, c'est un changement dans le travail collaboratif. Bon. Alors, Math en poche a constitué une étape très importante pour CESAMAT, pour deux raisons. Du point de vue de la notoriété, déjà, ça a permis à CESAMAT de découvrir une audience très large, et ça lui a donné aussi une certaine popularité. Donc de ce point de vue-là, Math en poche a été important pour CESAMAT. Ensuite, Math en poche a constitué une étape importante dans la mesure où on trouve au sein de ce projet, pour la première fois, enfin, on voit un travail collaboratif qui prend naissance. Alors cette naissance du travail collaboratif au sein de Math en poche s'est fait petit à petit, naturellement, et donc bien sûr, je trouve que c'est un bon exemple quand on réfléchit sur le travail collaboratif. Alors d'abord, pourquoi Math en poche ? Pourquoi un jour une équipe, des gens ont décidé de développer quelque chose comme ça ? Bon, déjà il faut dire que les exerciceurs ont toujours été très utilisés. Il y a quelques années, il y avait une forte demande d'exerciceurs, mais peu d'offres. Il n'y avait pas beaucoup d'exerciceurs, et encore moins d'exerciceurs gratuits. Donc de ce point de vue-là, strict off-demande, c'est pas idiot de développer un exerciceur supplémentaire. Il y avait aussi la question du choix du logiciel de développement, et le choix, ça a été le logiciel Flash. Alors, le logiciel Flash constitue un choix très innovant par rapport à l'époque, puisque à l'époque, on développait davantage en Java quand on voulait développer sur le web, et certainement pas Flash. Flash, c'est plutôt pour des animations web, les publicités qu'on voit. Donc, a priori, on n'a pas Flash qui s'impose à nous quand on réfléchit à développer un exerciceur. Et pourtant, c'est ce logiciel qui a été choisi. Et je pense que c'est un bon choix parce que ce logiciel offre des commodités du point de vue du langage et du point de vue de la programmation qui font que des développeurs, a priori débutants, peuvent se lancer dans cette tâche-là. Il y a toute une couche de programmation d'aide dans Flash qui est relativement facile à prendre en main. Or, dans maths en poche, les exercices, les aides des exercices de maths en poche, ce sont des aides animées, ce sont des animations. Donc, c'est un choix très pertinent. Il y a donc quelques profs, une équipe qui s'est réunie à l'époque, qui s'est lancée dans l'aventure avec cette idée-là. Il y avait aussi une idée extrêmement importante, c'est maths en poche réseau. Savoir effectivement, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, maths en poche réseau, c'est pas du tout quelque chose qui est venu après, c'était dans le cahier des charges initial. Donc il y avait cette idée d'utiliser Flash et d'essayer de développer en même temps une structure qui permet à l'enseignant de programmer des séances. On n'a pas simplement une utilisation en ligne, c'est plus qu'une utilisation en ligne, c'est une programmation d'exercices qui sont utilisés en ligne. Bon, c'était le début d'une ENT en fait. Hein. Alors une équipe va donc se constituer, une dizaine de développeurs, une dizaine c'est l'ordre de grandeur, hein, je n'ai pas compté du tout, dès le départ, qu'est-ce que font ces 10 développeurs? Ils vont se répartir les tâches. S'il s'agit de développer maths en poche 6e, il y a 10 chapitres, la première chose qu'on fait, c'est en gros, chacun va prendre un chapitre. Donc ça, c'est du travail coopératif. On a un projet qui comporte 10 éléments, chaque développeur prend un élément à sa charge, il y a immédiatement un travail coopératif qui se met en place. Dans l'équipe maths en poche, il y a 2 membres qui vont s'occuper plus spécialement, enfin uniquement, de tout ce qui concerne la scénarisation. C'est-à-dire qu'ils vont faire pour chaque exercice, détailler ce qu'on veut avoir à l'écran, ce qu'on teste, qui s'occupe de ça. Il n'y a pas de mélange. Au sein de cette équipe de 2, il y a un premier travail collaboratif. Bon, c'est un peu abusé puisqu'ils ne sont que 2, mais néanmoins, ils réfléchissent quand même à 2 sur les scénarios qui sont proposés. Alors, il faut savoir aussi que, comme vous voyez, que dans le modèle d'exercice de maths en poche, tous les exercices se ressemblent, il y a une charte graphique qui est commune, ça a l'air de rien, mais si vous connaissez par exemple l'Illimat, il n'y a pas de charte graphique. C'est pas évident, ça se fait pas tout seul, et l'équipe s'est réunie pour se mettre d'accord sur une charte graphique, sur un modèle commun. Il faut savoir que quand on définit un modèle commun, c'est à la fois de la souplesse pour l'avenir, mais en même temps c'est rigide dès le départ, parce que chacun a envie d'avancer dans son coin, et donc dès le départ on se met un carcan en quelque sorte. Donc c'est pas anodin comme choix. La mise en place du modèle, c'est vraiment du travail collaboratif. Le modèle, ce modèle, cette structure, elle a été faite par toute l'équipe. Les développeurs débutaient en Flash, se posaient de nombreuses questions. Et alors, je vais vous montrer un exemple juste après, mais il faut savoir que la liste de maths en poche, les mails, c'est une liste extrêmement dense, avec un rythme assez infernal. Et il y avait dans ces mails deux catégories. Il y avait une catégorie de mails, c'était des mails comment je fais pour faire ça, j'arrive pas à le programmer, comment t'as fait toi pour programmer dans ton exercice. Et il y avait des mails, du point de vue de la scénarisation, on me demande de faire tel exercice, c'est écrit dans le scénario, mais je sais pas faire, c'est trop exigeant. Alors je vais vous montrer un exemple. Ici, vous voyez donc des mails j'ai pris, mais vraiment au hasard, il faut savoir que dans mon ordinateur, j'ai un répertoire avec plusieurs milliers de mails. Donc de toute façon, je ne vais pas me mettre à les choisir. Donc j'ai pris 12 janvier, 14 janvier, 15 janvier. C'était l'époque du développement de maths en poche 4e. Et vous voyez déjà la densité des messages. Alors je fais le tri assez facilement puisque c'est toujours là 4N3. Donc quand on fait une recherche, c'est très facile de les classer. C'est pour ça que ça ne me prend pas beaucoup de temps là, à les mettre dans un répertoire. Vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est que dans la colonne de gauche, vous voyez, par exemple, Yann Posard, qui est ici, qui apparaît souvent, et lui, il s'occupe de la scénarisation. Et ça montre bien l'intensité des échanges, parce qu'en quelque sorte, c'est lui qui va valider ou non l'exercice. Il y a le développeur qui développe l'exercice en fonction d'un scénario qu'on lui a donné, et il y a le scénariste qui est là pour valider ce qui a été fait. Et ça se fait, ça, dans une autodiscipline, qui ne pose absolument aucun problème. Tout le monde accepte ça. C'est presque, on a l'impression que l'équipe se rend compte que si elle ne fait pas ça, ça ne marchera pas. Alors, par exemple, ici, j'ai un échange de mails, donc Benjamin, je t'ai mis. Donc, sans rentrer dans le détail, il y a une posard qui demande à Benjamin de mettre plusieurs zones de saisie dans un exercice. Alors, faut savoir que les zones de saisie soufflage, c'est assez pénible à programmer au début. Et il y a Benjamin qui dit en plein milieu, et t'appelles ça simplifier la tâche du développeur, toi. Oui, voilà. Alors, bien sûr. Alors, c'est... Quelque part, cette ignorance était voulue. Comme ça, on avait des scénarios qui n'étaient pas influencés par les limites de la programmation. Et il a toujours revendiqué cette ignorance absolue. Bon, l'échange de mails continue. Là, c'est le... Vous voyez, finalement, Benjamin, ça te va comme ça? Oui, ça va comme ça. En fait, le problème a été réglé. Ce qui se passe, c'est que concrètement, il y a eu les zones de saisie demandées. Une petite remarque finale sur l'aléatoire pour que l'exercice soit faisable. Mais en gros, c'est quoi la structure de ces mails? C'est un scénario, une difficulté, et finalement, les développeurs, entre eux, arrivent à surmonter la difficulté. D'une manière générale, je pense que je ne me trompe pas, en gros, tout ce qui a été demandé a été fait. Du point de vue de la scénarisation. Alors, pour du point de vue de ce mat en poche, on peut proposer ce schéma, ce diagramme pour résumer le projet, qui finalement est assez complexe. Vous voyez au centre une équipe de développeurs, l'équipe mat en poche proprement dite. Dans cette équipe mat en poche, vous avez des développeurs et des scénaristes. Et d'autre part, il s'agit de développer mat en poche 6e, quelques chapitres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe. Chaque développeur au départ prend en charge un chapitre, ce sont les flèches bleues, c'est le travail coopératif. Mais ça c'est bien gentil, si on s'arrête là, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se fait. Les flèches bleues, le travail effectif, c'est-à-dire la mise en œuvre du travail coopératif, n'est possible que parce qu'il est permis par deux choses. D'une part, la scénarisation, il faut bien dire au développeur qu'est-ce qu'il doit développer. C'est important parce que le développeur, n'a pas de temps à perdre sur les problèmes dus à la scénarisation. Il y a déjà cette difficulté avec la programmation, c'est bien différent. Ça ne veut pas dire qu'un jour il ne va pas scénariser, mais quand il développe, il ne scénarise pas. Il semble que ça c'est important. Donc cette scénarisation, elle est travaillée collaborativement avec l'équipe des scénaristes, c'est la double flèche rouge. Les développeurs se réunissent par les mails, par leurs réunions, ils travaillent ensemble, il y a un travail collaboratif au sein de l'équipe. Donc il y a le cercle compétences programmation qui se développe, et ces compétences permettent également le travail coopératif, le développement des exercices. Bon, je pense qu'il y a vraiment eu un cercle vertueux. Il faut savoir que ça va dans les deux sens aussi. Il y a la scénarisation donc qui induit, qui force les développeurs à se dépasser en quelque sorte, d'aller toujours plus loin. Les développeurs prennent plaisir, prennent des initiatives. Et même des fois vont plus loin. Alors le scénariste il dit comment ça c'est possible? Ah oui mais alors là moi j'ai d'autres idées de scénario. Et comme ça on arrive finalement du mat en poche 6e des exercices assez simples à des exercices de plus en plus évolués. Alors la façon de travailler. La façon de travailler de l'équipe mat en poche, les échanges nécessaires au développement, la scénarisation des exercices, tout ça, c'était complètement invisible pour les gens de l'extérieur. Moi, j'avais entendu parler de mat en poche, je ne savais absolument pas comment ça fonctionnait. Pour autant, il y avait réellement un travail collaboratif. Donc, en quelque sorte, mat en poche, c'est un travail collaboratif privé. Donc, privé dans le sens où il n'y a pas de visibilité de l'extérieur. À plusieurs reprises, dans l'histoire de mat en poche, il y a des développeurs qui ont rejoint l'équipe au début, à la fin de la 6e, à la fin de la 5e. C'est arrivé quelques fois que des développeurs ont rejoint l'équipe. Alors ça se fait pas tout seul. On organise des réunions, deux, trois journées d'accueil pour faire avaler le modèle. C'est très lourd à mettre en œuvre. Ce qui fait que, dans la pratique, quand vous voyez la vitesse des mails, le nombre de mails échangés, la difficulté de prendre en main le modèle... On rentre pas dans l'équipe de mat en poche comme ça. Donc, il y a un travail collaboratif, mais il est fermé. En fait, il est fermé. Donc on peut dire en quelque sorte que Maths en poche, ça a permis la naissance et la mise en œuvre d'un travail collaboratif privé et fermé. Mais néanmoins, ça reste un travail collaboratif. Bon, on va maintenant préciser le lien entre les outils et le travail collaboratif. Hein. Les outils sont essentiels hein, quand on parle de maths en poche et des outils TIS. Quelques mots sur traces en poche. Je vais peut-être être un petit peu redondant avec ce qu'a dit Benjamin tout à l'heure, mais je ne vais pas avoir le temps de faire le tri là. Donc, dès le départ, très rapidement, traces en poche, ça a été la volonté de créer un logiciel de géométrie dynamique intégrable à maths en poche. Hein. Et Trace en poche a été développé en externe. C'est pas quelque chose qui est né au sein de Maths en poche. Il a été développé à l'extérieur, mais avec l'idée de le mettre dans Maths en poche quelques mois après. C'est ce qu'on appelle le TEP noyau. Le Trace en poche qui est dans Maths en poche, c'est le TEP noyau. On avait aussi l'idée de mettre de la géométrie dynamique dans l'exerciceur afin de... C'est tout le temps la même problématique. Comment amener les élèves et les enseignants à faire de la géométrie dynamique? Si on pose la question comme ça, eh ben, la réponse, une des réponses, ça peut être, ben, utilise un exerciceur, il y a de la géométrie dynamique dedans. Alors maintenant, est-ce que ça, on y est parvenu? C'est pas évident. Est-ce que maintenant, avec ce qu'il y a dans Maths en poche, les élèves découvrent les grands principes de la géométrie dynamique? C'est une question qui se pose. Mais il y avait cette volonté-là. Instrument poche, la calculatrice, alors là c'est différent. Instrument poche, au départ vous aviez un compas, une équerre qui était développée, je pense, si je dis pas de bêtises, dans le cadre d'une aide, pas dans l'exercice, dans l'aide. Et il y avait, mettons, un compas qui apparaissait pour montrer quelque chose de gamin, par exemple un compas pour comparer de longueur. Et une fois que l'exercice était, l'outil, le compas était programmé, on s'est dit, ben, pourquoi pas le mettre dans l'exercice alors? Comme ça, l'élève va manipuler l'outil. Puis après, on a multiplié le nombre d'outils. Donc, on a eu une barre d'outils. Puis après, on s'est dit, oui, mais cette barre d'outils, on peut la rendre autonome. Donc, on l'a mis à l'extérieur de Maths en poche. Donc là, il y a toute une histoire. Et on arrive à Instrument poche qui est devenu un outil extérieur. Pour la calculatrice, c'est un peu pareil. Ici, vous avez au départ là la première calculatrice de Maths en poche, la calculatrice collège, celle que les élèves ont à disposition cette calculatrice quand ils cliquent sur le bouton calculatrice. Et il faut que le bouton soit présent dans l'exercice. La calculatrice actuelle, c'est celle-ci. Enfin, ce sera celle-ci. C'est pas tout à fait terminé. Mais bon. Elle marche, hein, vous voyez, j'ai mis un exemple. Hein. Alors, cette calculatrice a été développée à l'extérieur. Et ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, c'est que tout le cahier des charges a été fait par l'équipe de l'IREM de La Réunion. Vous voyez derrière, en fond d'écran, un cahier des charges pour le mode stat de la calculatrice. Ça, c'est pas Césamat, c'est l'IREM de La Réunion. Ça va loin, même le... la position des boutons, la nature des boutons, les différents modes de la calculatrice, c'est l'IREM de La Réunion. Et bien sûr, c'est un travail collaboratif qui est mis en œuvre là-bas.
Et JP a même pas réussi à aller à La Réunion. Donc
ouais, j'ai pas réussi à aller à La Réunion. Donc, alors, autre chose. Une fois qu'on a compris cette problématique d'outils, l'outil qui ouais, je l'ai enlevé. L'outil on a donc un outil qui devient extérieur, ça devient un programme à part entière. Mais ça va plus loin parce que l'outil devient même un projet. Alors ça, c'est aussi important. Quand on considère l'histoire, par exemple, d'instrument poche, quand on voit le compas au départ dans une aide, après il apparaît dans l'exercice, après il y a une barre d'outils, après il est sorti, il peut être utilisé tout seul, après il y a un site, après il y a une communauté qui se greffe sur le site, après il y a des échanges qui se greffent pour utiliser l'outil, on se rend compte qu'il y a vraiment une historique intéressante et on voit qu'il y a un lien direct entre l'outil et la communauté, l'outil et les pratiques, donc entre l'outil et le travail collaboratif. Pour terminer ce paragraphe sur Maths en poche, on ne peut pas terminer sans parler de l'importance des réunions. D'ailleurs, à propos du jeu de mots La Réunion, effectivement, j'ai pas pu aller à La Réunion, et finalement, ça manque. Parce que moi, j'aimerais bien les voir. Quand dans l'équipe Mat en Poche se mêlent ensemble chez Sébastien H pendant 3 jours, on travaille beaucoup, beaucoup, mais il y a beaucoup aussi de moments de franche rigolade, de détente, et on sort de là gonflé à bloc. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus je crois que ces réunions sont essentielles pour le développement des projets, des travaux collaboratifs. Les manuels sont montrés en exemple. Quand on parle de travail collaboratif dans ces AMAT, on cite l'exemple du manuel en premier. C'est tout à fait justifié. Pourquoi un manuel ? Quand on parle d'ETIS, on parle souvent de la problématique de l'intégration harmonieuse et efficiente des TIS dans l'enseignement. L'association proposait déjà de nombreuses ressources TIS, mais c'était des ressources éparses, c'était pas le manuel. C'est une possibilité pour l'association de proposer une solution pour l'intégration des TIS. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est une proposition d'intégration. Il y a aussi, comme d'habitude, cette notion de défi. Je crois que c'est une maladie dans ces AMAT. Quand on en a parlé, ça donne un peu tout de suite envie de le faire. Ça a motivé beaucoup les auteurs. Et il y a aussi, bien sûr, le manuel numérique, bon, qui était quand même, il y a quelques années, très novateur. Donc on voit ici un exemple d'activité avec traces en poche en arrière-plan, donc des TIS. Une page internet avec en haut des petits boutons de navigation. Donc on peut vidéo projeter complètement le manuel. On est complètement dans le manuel numérique. Et il y a les compléments tout en bas de l'écran.
C'est-à-dire en fait les fichiers de géométrie dynamique qui sont aussi mis à disposition sur le site. Donc là on a le diaporama du manuel, c'est la page qui s'affiche du manuel, mais il y a en plus en bas des liens vers les compléments, des compléments numériques.
Alors comment c'est possible de faire un manuel ? C'est toujours souvent cette question se pose. D'abord, il faut dire des choses qui sont importantes. Il y a quelques années, 3 ans, 3-4 ans, quand on a commencé manuel 5e, Césamat était déjà connu. Il y avait déjà une notoriété, en tout cas il y avait une popularité de Césamat auprès des enseignants, et il est évident que ça facilite la création d'un manuel. Il y avait aussi la lettre de Césamat qui touche immédiatement tous les professeurs. Donc il y a un appel qui est fait par quelque chose d'autre part qui est populaire, ça rend possible le démarrage du projet. Hein. Alors, comme pour Mat en Poche, là je vais aller plus vite, il y a un travail coopératif qui se met en œuvre puisqu'il faut bien se répartir les tâches, et il y a également un travail collaboratif qui se met en œuvre dans la mesure où l'équipe se divise en sous-équipes et chaque sous-équipe réfléchit, travaille sur chaque ressource. Donc il y a un travail collaboratif. Mais à la différence de Mat en Poche, le projet, le manuel, comporte beaucoup de nombreux auteurs. Alors ce qui fait qu'il y a des problèmes d'échelle qui se posent tout de suite. Par exemple, les réunions, une réunion à 10, c'est possible. Une réunion à 25, c'est possible. 50, 100, c'est pas possible. Donc il y a des problèmes. Je vous ai montré un exemple tout à l'heure sur la liste avec les mails de Mat en Poche. Vous voyez la quantité. Là, manuel, c'est un échange au moins aussi dense, hein, aussi dense. Et ça vient de partout, ça tape partout, dans tous les sens. Donc, il y a des limites. Et un peu, on est submergé. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'il y a un outil qui a été créé, c'est l'interface collaborative. L'interface collaborative, c'est vraiment quelque chose qui est venu pour résoudre un problème, pour essayer de donner une structure permettant le travail collaboratif. Donc voilà une copie de l'interface collaborative. Donc comme je suis allé complètement par hasard, hein, je ne sais même pas trop où je suis. Hein. Je suis dans le manuel 6e. Là. Alors, ça c'est la page principale. Quand on a... Vous voyez en bas à gauche, on voit un peu... Cahier 6e, cahier 5e, Mat en Poche 6e, et vous avez un peu tout. Et j'ai cliqué sur manuel 6e. Et on voit ici, vous voyez les ressources. Alors, donc, ce sont les auteurs qui déposent des documents, qui modifient les choses. Et on voit l'historique. Et quand je clique sur un des liens que vous voyez à l'écran, j'arrive ici, où là, j'ai le CV de... Parce que toutes les modifications d'une ressource, ça fait un CV pour la ressource. Et vous voyez ici les numérotations par ordre chronologique. Celui qui a déposé la ressource et le commentaire qui va avec. Bon. Avec des figures plus mieux pour le numéro 3. Alors ça peut aller loin, je pense que, je m'aventure un peu, parce que moi je ne suis pas dans ce projet-là, mais il peut y avoir 20 à 30 versions comme ça. Donc, on a pris deux exemples, ma tampoche et le manuel. On pourrait sans doute prendre d'autres exemples, où il y a du travail collaboratif, mais il semble que c'est quand même, bien entendu, les deux exemples les plus significatifs. Maintenant, il faut essayer d'expliquer en quoi il y a un changement en ce moment du point de vue des projets et du travail collaboratif. Bon, parallèlement à la multiplication des ressources proposées, à la multiplication des outils, grandit le besoin de scénarii d'usage, de documents d'accompagnement, de comptes rendus d'utilisation. Ça, c'est toujours le problème dans ces AMAT, mais pas seulement dans ces AMAT. Il y a une multiplication de ressources, mais il y a peu, en tout cas, quand on rapporte au nombre de ressources, il y a peu de documents d'accompagnement de ces ressources. Il y en a quand même pas mal, puisque vu la quantité de ressources, mais ça constitue un souci. Il y a des travaux de recherche au sein des IREM, ou dans les commissions inter-IREM, qui permettent de travailler sur ces ressources. Il y a des journées comme aujourd'hui, avec des membres de la recherche, pour réfléchir sur les pratiques, sur les ressources. Ça existe, mais c'est encore, ça suffit pas visiblement, quand on considère le besoin, déjà, et quand on considère le nombre de ressources. Donc, dans cette optique de réflexion sur les usages, sur les pratiques, c'est là que Mathématis et le blog jouent un rôle important. Donc, le blog permet de faire connaître l'action de ces AMAT, permet de rendre compte de ses activités. Il permet également de faire connaître d'autres projets, de ces AMAT. Il y a beaucoup d'articles dans le blog qui concernent absolument pas des projets de ces AMAT. Et puis même, c'est aussi une vitrine où on trouve des renseignements divers qui concernent, ça peut être un site intéressant, une exposition. En fait, c'est très vaste, le blog. Il y a les articles sur le blog qu'on trouve, si on les étoffe, ils peuvent se retrouver dans la revue Mathématis. La revue Mathématis, donc cette revue en ligne, on ne l'a pas mentionné tout à l'heure, elle a une caractéristique amusante, c'est comme elle est en ligne, on peut y mettre des animations en plein milieu. Donc c'est quand même, c'est pas superficiel, c'est réellement, il y a quelque chose de plus que le papier. À partir du moment où, en plein milieu de l'article, on a une figure dynamique, ça, on n'aura jamais ça dans le papier. Ou une vidéo. Oui, voilà. Donc le blog et le Mathématis, ce sont des vecteurs à partir desquels, enfin, qui permettent cette réflexion sur les pratiques et sur les usages. Donc si j'ai mis deux exemples d'articles sur le blog. Donc ici c'est un site, un article sur les mathématiques magiques, qui n'a rien à voir avec ces AMAT, mais je pense que vous connaissez, c'est extrêmement intéressant, c'est l'œuvre d'une personne. Alors j'ai mis cette copie d'écran parce que, bon, c'est toi Seb qui avait écrit ça, et j'aime bien là, il y a une phrase, peut-être vous la voyez pas, mais il y a une question dedans qui est intéressante. La question c'est, après tout, quand on considère par exemple les mathématiques magiques, c'est pas du travail collaboratif, et pourtant il est essentiel ce site, il est intéressant. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas tout faire avec le travail collaboratif, et heureusement, quoi. Le travail collaboratif, ce n'est pas la solution à tout. Il est évident que les œuvres individuelles sont importantes. Il y a aussi le cap brevet. Bon, là, pareil, on informe la communauté d'un nouveau projet important. Donc, Mathématis, là, vous avez le sommaire de ce mois-ci, avec tous les articles. Au début, quand on avait commencé ce projet, ça paraissait impossible. Et maintenant, quand je regarde le nombre d'articles, je commence à être très impressionné. C'est lentement, mais sûrement, Et c'est plus un, et à la fin, on a une quantité de documentation qui est vraiment impressionnante. Voilà un exemple de projet que je connais bien, c'est vrai, mais ce qui est intéressant dans ce projet, alors quelques mots dessus, il s'agit de faire des activités TIS au niveau seconde, avec le tableur, avec un logiciel de géométrie dynamique, et on l'élève à un support papier où le prof a une fiche d'accompagnement. On développe donc ces fiches-là. Alors, ça, c'est le site public. Alors, ça veut dire que vous pouvez y aller, il y a une adresse, vous cliquez, vous avez la fiche. Bon, pour l'instant, c'est quoi ça? Ça, c'est un site de ces, ça, c'est un projet de Césamat 1.0. Voilà. Il y a une interface collaborative derrière, il y a une équipe qui travaille, il y a des échanges de mails, et il y a ça qui sort à la fin. Ça, c'est un projet de 1.0. Elle est où l'évolution? L'évolution, elle est là. C'est que maintenant, il y a Césaprof, et qu'est-ce que Césaprof apporte de plus par rapport au site public? On voit les mêmes fiches, sauf que d'abord, il y a plus de fiches que sur le site public, et comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, dans Césaprof, c'est un espace où chacun peut donner son avis sur les fiches, peut réfléchir, peut proposer des améliorations à la communauté, travaille sur la scénarisation. Et ça, ça se fait en amont. Là, on a un travail collaboratif, mais il est plus ouvert. Il est davantage public, puisque à partir du moment où quelqu'un peut que se connecter, cliquer, et dire « Ah, mais vous faites ça comme ça, mais moi je propose qu'on fasse comme ça. » Ça veut dire qu'il rentre dans le fonctionnement. Donc le travail collaboratif est beaucoup plus public, beaucoup plus ouvert. Ça, c'est une évolution profonde dans Césamat. Et c'est quelque part, c'est Césamat 2.0. Je termine avec des travaux collaboratifs différents, travaux collaboratifs externes. Ça aussi, c'est pas la même chose. Donc là, vous avez Calculatis, qui a été développé avec l'inspection académique du Nord, et Cap Brevet, hein, qui a été développé avec les associations Web-Lettres et les Clionotes, où là aussi, on a des travaux collaboratifs externes. On essaie de mettre des ressources transversales.
Alors, donc, la partie 2 de notre exposé, le Césamat 2.0, le Césamat des usages. Ce Césamat 2.0 vient renforcer le Césamat 1.0, celui des projets qui reste bien évidemment essentiel. L'une ne vient pas remplacer l'autre. Alors, les limites du Césamat des projets. Tout d'abord, la multiplication du nombre de projets qui nous pose des problèmes. On a des difficultés d'organisation interne. Les membres qui s'investissent dans de nombreux projets risquent d'éparpillement. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes et on a envie, dès qu'un nouveau projet démarre, d'y aller. Seulement, quand on fait ça, on risque de déshabiller un petit peu un autre projet. Donc on essaie de faire attention à ça quand même. La multiplication des projets éditoriaux et peut-être le risque d'être pris un petit peu dans un engrenage. Évidemment, éditer, ça nous fait gagner des sous. Et quand on gagne des sous, on aime bien gagner plus ou continuer à gagner pareil, en tout cas pour avoir le même niveau de vie, j'ai envie de dire. Ça, c'est pas très bon quand même. On n'est pas une entreprise, hein, donc il faut faire attention à ce que cet esprit pionnier initial qui était dans Césamat ne soit pas complètement annihilé par tout ça. Donc voilà, il faut qu'on essaie de garder cette créativité qui, je pense, caractérise ce qu'on a fait depuis quelques années. Donc, à la tête de Césamat, on a en tête ça, on fait attention. Une logique de projet peu adaptée aux élèves ou aux parents. Alors ça, on a essayé quand même d'y remédier un petit peu depuis quelques années, dès qu'on a vu que les élèves s'intéressaient beaucoup à ce qu'on faisait. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, au départ, nous, on s'adressait aux profs de maths. Et donc, actuellement, sur la lettre de diffusion, s'il y a 15 000 profs de maths qui sont inscrits, je crois qu'il y a 18 000 élèves. Donc, il y a plus d'élèves que de profs qui sont inscrits sur la liste de diffusion. Et ces élèves, alors bien sûr, il y en a qui se sont perdus. On ne sait pas pourquoi, ils ne savent pas pourquoi ils s'inscrivent. Mais pas tous quand même, parce que quand ils reçoivent la lettre toutes les semaines, ils ont un bouton pour se désabonner. Ils savent cliquer sur le bouton, quoi. Et des lettres, des messages qui nous reviennent avec insultes comme quoi « laisse-moi tranquille » ou « pourquoi tu m'écris ?» Il n'y en a pas tant que ça. Donc il y a vraiment un besoin des élèves de se tenir informés de ce qui est fait dans ces AMAT. Ce besoin, on l'a vu, on a pu le voir aussi. Donc quand on s'inscrit à la lettre, il y a la possibilité de laisser un petit message. Parmi ces petits messages, il y en a qui sont très intéressants, vraiment, d'élèves qu'on sent bien que on fait quelque chose pour eux, quoi. Et donc ça nous a quand même donné l'envie de s'adresser plus lisiblement à eux. On a aussi trace de ça sur le site de Math en Poche où on a ouvert un livre, comment on appelait ça, Raph, un livre d'or. Où il est ? C'est un livre d'or qu'on a appelé ? Et où, alors Raph peut-être pourrait préciser, mais je ne sais pas s'il en modère beaucoup, mais on a là aussi des messages d'élèves qui font plaisir, quoi. Donc cette logique de projet peut adapter aux élèves et aux parents aussi. Et quand je dis élèves, le sens est à prendre plus large. On a beaucoup d'adultes qui en fait utilisent nos ressources. Alors pas autant que d'élèves bien sûr, mais on retrouve des messages d'adultes qui préparent des concours, qui essayent de se maintenir au niveau pour pouvoir aider leurs enfants lorsqu'ils font leurs devoirs le soir. Et visiblement, on les aide à ça, donc on en est content. Donc il faut qu'on arrive à s'adresser correctement à ces élèves et à leurs parents. Donc on a pour ça un changement de logique de l'organisation des sites et de la manière dont ils vont être proposés aux utilisateurs, des sites plus orientés utilisateurs qu'orientés projets. Et donc on a la triplette Kidimat, Césaprof, Labomat. Labomep. T'as pas changé ?
Non.
C'est pour ça ? Alors on l'appelle plus Labomat parce que Labomat ça existe déjà. Alors on va pas piquer le nom à celui qui s'en sert. Donc ça sera Labomep. Notez bien hein, pour pas faire comme moi et utiliser le mauvais mot. Passe au suivant, JP. Alors, le premier, il y en a plein d'entre vous qui n'ont pas vu ça encore, parce qu'il n'est pas, il n'a pas été rendu visible encore, en tout cas public. Donc, c'est Kidimat qui va s'adresser aux élèves. Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est pas uniquement aux élèves, c'est aux apprenants. Donc, Kidimat, finalement, je me dis maintenant, je vois pas trop des adultes s'inscrire à Kidimat. Mais bon, on leur expliquera qu'ils peuvent venir quand même. Ce sont des grands enfants. Et donc, on trouvera là-dedans tout ce qui est dans ces AMAT en direction des élèves. Et on va essayer de s'adresser à eux le plus simplement possible. Parce que forcément, aujourd'hui, quand... S'ils veulent trouver une ressource dans ces AMAT, quand ils vont sur le portail de ces AMAT, ça donne pas trop envie à un élève, quoi, d'aller. C'est pas très fun, quoi. Donc là, on va essayer d'être un peu plus fun, tout en continuant à faire des mathématiques quand même. Mais on s'adresse à des élèves, donc on va essayer de mettre ça en place. Et on peut annoncer la naissance en 2009. Ouais, Thomas, Arnaud, ouais.
En 2009.
Début 2009. Bon, premier semestre 2009, alors. J'ai mis la pression, mais pas trop. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi, et dans ce qui est on relève là du domaine de l'accompagnement à la scolarité. Et on va marcher un peu sur les pieds de certains, mais on sera assez content de leur marcher sur les pieds parce qu'on n'est pas très content, nous, de ce qu'ils proposent. Donc, tant pis, on va leur marcher sur les pieds. Passons à César Prof. Alors là, ça, c'est bien en place. C'est un très gros travail qui est réalisé par Thomas et Christophe, principalement. Il n'y a pas que, mais par Thomas et Christophe. Et ça, c'est en place. Maintenant, c'est pas suffisant que ça soit en place. Il faut le faire vivre. Il y a beaucoup de travail à faire au quotidien. Et puis, il va falloir que ça vive de lui-même, quoi. Il faut que... je ne sais pas si vous voyez l'onglet communauté sur la barre orange, là c'est le troisième. C'est là-dedans où on aimerait bien qu'il se passe des choses. Alors nous on a initié déjà quelques petites communautés. Mais bon, s'il n'y a que nous qui initions, on va tourner en rond. Donc l'idée c'est quand même que dans cet espace là. Des profs soit viennent nous rejoindre, soit carrément nous proposent d'ouvrir des espaces dans lesquels ils pourront échanger sur le sujet de leur choix. Actuellement, on a les travaux pratiques au bac S, on a le TNI et on a Seb. Ah, c'est demain, t'en parles ? Thomas, oui, Thomas, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On verra demain, d'accord, bon. On ne peut rien dire, alors. Voilà, on trouve quoi d'autre ? On trouve les dernières brèves, donc ça, ce sont les brèves qui sont qui sont éditées depuis le site de Césamat ou depuis Césaprof. Les derniers articles de Mathématis, alors malheureusement les derniers, il n'y en a pas que deux, hein, mais si on affiche. Ah, il y a un turnover des derniers articles de Mathématis, donc puisque... D'accord, très bien. Les billets du blog, et puis on trouve tout un tas d'informations. Et je pense que cet espace-là est quelque chose de sécurisant pour le prof. On se sent, je pense, un peu entre nous. Enfin, j'espère que c'est... moi, c'est le sentiment que j'ai. Et puis, ce qui est intéressant pour les membres de Césamat, on peut le voir tout en haut, là, à côté, à droite, du déconnexion. On peut changer de statut, le statut de base professeur, le statut responsable. On est quelques-uns à être responsables de quelque chose, donc... On a accès à notre espace. L'interface collaborative qui se retrouve intégrée dans Césaprof, donc ce que vous a montré tout à l'heure JP, où si on travaille dans un des projets de Césamat, on peut y aller tout en restant dans Césaprof. Le pilote qui est quelque chose d'interne à l'association, qui nous permet de gérer quelques petites choses. Et le wiki, où ça c'est un site de travail collaboratif sur lequel on travaille sur... les livrettistes, sur les manuels et pas mal de com à l'intérieur de l'association. Je passe au suivant. Donc, Labo MEP. Il faut enlever le Labo Mat là pour l'instant. Donc, ça, c'est en fait la nouvelle version de Mat en Poche Réseau. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Si, vous y voyez quand même. Donc, là, on a. Beaucoup de force sur ce projet-là. Bon, ils diront qu'ils ne sont pas assez nombreux, peut-être, mais ils sont quand même quelques-uns à travailler dur depuis un bon moment maintenant. Et ça avance bien. Il y a une première version qui est en test avec un très petit groupe de testeurs qui va nous permettre de voir que la version basique fonctionne. Et puis, on va bientôt tester ça à plus grande échelle. Et l'idée, c'est que ça soit disponible pour tous à la rentrée prochaine. Et donc, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à Mat en Poche Réseau d'avant ? Déjà une intégration de ressources plus nombreuses, en plus des exercices maths en poche, les aides maths en poche, ça a l'air de rien, mais les aides maths en poche, on ne pouvait pas les mettre à l'intérieur d'une séance, alors qu'elles sont utilisées parfois par les enseignants, soit en introduction de séance, soit comme une sous forme d'obligation de lire l'aide. Ou autre utilisation, de rajouter les exercices de IBEPS, de rajouter tout ce qui est complément des manuels Césamat, et j'en oublie à la base pour l'instant. Qu'est-ce que j'oublie ? Le manuel, oui, tout ce qui est image du manuel. Et donc après, il y a la partie mes exercices à moi. Donc ça doit être du côté droit. C'est ça, mes ressources. Où là, comme dans l'interface actuelle, on va pouvoir créer ses propres exercices. Donc dans l'interface actuelle, on pouvait créer des exercices qui donnent de la géométrie dynamique, donc trace en poche, de la géométrie des instruments virtuels, instruments poche, et le tableur, case en poche, et calcul mental, avec un petit module basique qui était à disposition. Il y aura évidemment tout ça, avec une bien meilleure ergonomie, mais en plus d'autres choses. On a parlé déjà, et vu qu'on a l'accord du développeur, ça devrait se faire, Car Metal. Ensuite, on a quelqu'un qu'on est allé repêcher, qui nous avait tendu la main il y a quelques mois, c'est ExoGeo qui propose des démonstrations à l'aide de déductogrammes. Et puis après, on a d'autres idées, puisqu'il y a XCAS qui se développe en ligne. XCAS, c'est un logiciel de calcul formel. Donc pourquoi pas l'intégrer également. Voilà. J'en dirai pas plus. Si, il faut que je dise plus, Arnaud. La gestion des groupes. Ah oui, on a amélioré quand même grandement la gestion des séances, des groupes. Et puis, je ne sais pas si vous voyez là, mais... Enfin non, vous voyez pas. Tout se fait par glisser, déposer ou par clic. Il n'y a plus de copier-coller comme il y avait pas mal à faire avant. Et enfin, une nette amélioration au niveau ergonomique. Et puis, ça accueille aussi quand même la nouvelle version de Maths en poche. On a failli oublier d'en parler, JP. Donc, la nouvelle version de Maths en poche, où, contrairement à ce qui était le cas avant, quand on mettait un exercice, on le donnait forcément dans sa totalité. Alors, on pouvait évidemment dire à l'élève, tu t'arrêtes à la troisième question et passe... l'exercice suivant. Là, on pourra choisir les questions qu'on affiche et le nombre de questions qu'on affiche par exercice. Les exercices, il sera possible également qu'il n'y ait pas forcément, comme actuellement, 5 ou 10 questions. Ça, c'était quelque chose qui était contraignant pour le développement et la scénarisation des exercices. Et donc, voilà, tout ça va se retrouver... dans LaboMep. Alors ça, c'est JP, l'auteur de ce schéma. Je vais lui repasser la parole quelques secondes.
Oui, enfin, je crois que c'est clair. Le Césamat 1.0, celui dont on a parlé tout à l'heure, il est tout en bas. C'est la liste des projets. Alors, au sein de chaque projet, il y a extrêmement compliqué. Je me contente de faire un rond. Et l'idée, c'est donner une nouvelle dimension au travail collaboratif qu'il y a derrière chaque projet, en donnant des structures, en créant des structures qui vont permettre de créer cette dimension-là. Par exemple, si au sein de Trace en poche, je vous souhaite, en tant que papa, que la communauté s'intéresse au logiciel et crée des ressources et réfléchisse et font des témoignages et échangent, tout seul dans mon coin, en levant mon doigt, je vais avoir du mal à le faire. Mais grâce à ces approfs, on a une structure où les gens se retrouvent et on peut faciliter là ces travaux-là. Donc on peut finalement résumer les choses avec trois structures, labo, MEP, ces approfs et KidiMath, qui ont certainement des intersections qui sont pas claires pour moi, hein, mais c'est évident qu'il y aura des intersections, mais c'est pas la question. Ce sont des structures qui sont d'ailleurs, faut le noter, développées par les salariés de ces AMAT, ça c'est important, hein, c'est extrêmement lourd à développer, et puis ça demande aussi de grandes compétences. Ces structures sont développées par les salariés, et les projets qui en dessous sont développés par les membres de ces AMAT. Et cette distinction, elle n'est pas anodine, elle est importante pour le fonctionnement interne. Et tous les projets qui se développent vont trouver leur place au sein de ce diagramme. Alors, un projet qui va trouver une place dans KidiMath, un projet dans LaboMEP et ses approfs, enfin, voilà, c'est ça l'idée. Une structure d'accueil pour tous les projets afin de développer le travail collaboratif, le rendre externe, le rendre public. Voilà.
Et quelque chose d'important aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais on pourra accueillir au sein de ces structures des projets qui sont hors ces AMAT, parce que à travers de LaboMEP, mettre à disposition CarMetal éventuellement au même titre que Trace en poche, c'est pas anodin, on veut pas vampiriser CarMetal. C'est que nous, l'idée, c'est quand même que le labo de maths soit utilisé par le plus grand nombre. Et mon collègue préfère utiliser CarMetal plutôt que Trace en poche, pourquoi pas lui en donner la possibilité au travers du labo de maths, à partir du moment où, avec les outils qu'on intègre dedans, on a un minimum de culture commune, ce qui est plutôt le cas avec CarMetal.
Il faut rajouter en bas des projets, en bas du diagramme, des projets différents des projets de ces AMAT, c'est vrai.
J'appuie sur... Alors je reprends la parole au sujet des enjeux à venir. Oui, je vais faire vite, JP. Donc cet esprit de pionnier qui prévalait dans ces AMAT évolue un petit peu. Mais donc on fait attention à ce qui reste toujours là. On a rajouté depuis 2 ans une dimension un petit peu nouvelle dans l'association, c'est le salariat. Avec les finances dont disposent ces AMAT, on a pu salarier un salarié à plein temps l'année scolaire dernière, et cette année on a fait un gros effort puisqu'on a un salarié à plein temps et 6 mi-temps, ce qui nous permet 5 mi-temps, ouais, c'est pareil, ce qui nous permet quand même d'envisager que le schéma que vous a montré tout à l'heure JP puisse être fonctionnel d'ici la fin de l'année scolaire, et on aura alors 3 outils qu'on pense performants pour quelques années. Et donc après, vers quel avenir cette professionnalisation dans ces AMAT se profile, ben, ça on voit, hein, on fait attention. Au niveau éditorial, l'année prochaine, on édite un manuel 6e. Qui ne correspond pas à une mise sur le marché d'un nouveau programme, où donc on n'aura pas les mêmes rentrées financières, donc on va réduire un peu la voilure. Et puis au sein de ce salariat, quelles sont les compétences qui sont requises? Avec Sébastien, on avait de la représentation et du management entre guillemets au sein de l'association. Avec les 5 mi-temps, on a rajouté d'autres compétences à ça, et notamment des compétences techniques que Sébastien ne n'est pas pourvu. Mais pas seulement, hein, ils n'ont pas que des compétences techniques, les mi-temps. Voilà, et puis se dirige-t-on vers un travail collaboratif public ouvert à tous, c'est ce qu'on espère au travers de ces APROF. Et puis pour le chantier Kidimat, là tout reste à faire pour ce qui est de travail collaboratif. Est-ce que quelque chose va se passer avec les élèves? Là c'est le flou le plus complet. On sait bien ce qui peut se passer avec les élèves, mais il peut se passer sûrement de très bonnes choses. Donc à voir qu'est-ce qu'on va mettre en place comme outil, des forums, pourquoi pas, faut voir ce que ça donne. Bon, on est avec des élèves, on n'est plus avec des collègues, donc on fera attention quand même. Non, c'était pas voulu. Oui, avec le nouveau modèle de maths en poche, la traduction est facile, entre guillemets. Donc on devrait voir, et je pense que ça peut aller assez vite, voire très vite, dès qu'on aura un niveau complet qui soit traduit dans une langue, ça peut aller très très vite ensuite pour passer d'une langue à l'autre. C'est ce qui se passe dans le monde du logiciel libre. Dès qu'une première, alors en général c'est soit l'anglais soit l'espagnol qui est le détonateur pour que ça aille vite après. Et donc on devrait voir plein de maths en poche. Ah oui, j'ai pas parlé de cette diapo. Ça c'était pour parler du travail collaboratif public ouvert à tous au sein de ces APROF. Donc vous voyez là un exercice, je crois qu'il est du niveau CM2, ça doit être sur les angles, et on voit, donc ces exercices sont mis en test au sein de ces APROF, ils sont pas accessibles par ailleurs, et on fait appel, lorsqu'on les met en ligne, on fait appel aux utilisateurs pour aller tester ces exercices, et y laisser des commentaires. Et bon, alors JP a pris celui-là comme exemple, mais moi j'en ai vu d'autres où il y avait... ou à moins qu'ils soient copiés, ils sont plus bas, mais j'en ai vu où il y avait pas mal de commentaires, oui, et où... Ah d'accord, bon. Peut-être sur celui-là aussi il y en a pas mal, mais où l'exercice il avance vraiment avec l'interaction avec les enseignants qui l'ont testé.
Bon, moi je pense qu'il y a plein de façons de terminer, mais à mon avis le plus important, étant donné le thème, c'est ce travail collaboratif qui a permis non seulement le développement des projets, mais aussi la qualité des ressources qui sont au sein de ces projets. Ça, le travail collaboratif permet le développement de ressources, mais il permet aussi de l'enthousiasme. Les gens qui travaillent le font avec enthousiasme. Donc il y a une énergie, il y a un enthousiasme, un esprit d'équipe au sein de ces AMAT, du CAMAT 1.0 des projets, qui est riche à tout point de vue, du point de vue humain, du point de vue des ressources produites, du point de vue de la réflexion personnelle, du point de vue de la qualité de l'enseignement finalement. On se retrouve devant l'élève, c'est toutes les réflexions qui ont lieu au sein de ces AMAT qui font que finalement on est capable d'améliorer notre enseignement. Bon, si on élargit ça et qu'on veut aller vers on veut étendre ceci à la communauté des profs de maths, à une communauté beaucoup plus large, sans parler déjà des parents ou des élèves, c'est un autre problème, eh bien ces APROF, les structures dont on a parlé, c'est sans doute la clé qui va permettre, qui pourrait permettre ce travail collaboratif ouvert et public. Maintenant, à mon avis, il n'y a pas au sein de ces APROF, pour l'instant, un exemple précis, à part celui-là, de vraiment mise en œuvre du travail collaboratif ouvert et public. Mais je pense que si c'est possible, ça passe par là. C'est ça. Donc c'est le CESAMAT 2.0, le CESAMAT qui est beaucoup plus tourné vers les utilisateurs, vers la réflexion sur les ressources. Hein. Donc CESAMAT des usages. Donc pour terminer, on discute souvent avec Sébastien tous les jours par Skype. Et puis il me sort... enflammé dans la discussion, à un certain moment, là, sa température interne monte, et puis il me sort une phrase que j'ai bien aimée, j'ai notée tout de suite. Donc la voici. Je vais te la lire. Et bon, c'est l'idée là, c'est-à-dire. on change de dimension, on donne une dimension supplémentaire, mais on garde l'élément essentiel, c'est la joie, la passion de le faire.
Donc on s'arrêtera là, et je ne sais pas si on a le temps de répondre éventuellement à deux, trois questions.